Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons passer sur des choses assez importantes, je pense, pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde, pour quelques personnes qui pourraient peut-être être tourmentées à cause d'une idée un peu fausse. On va commencer à faire une lecture dans Colossiens 1, chapitre 1, versets 15 à 20. Voilà ce qui est décrit. Il est aussi des questions de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que quand il était sur la terre, on le voyait et il était l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principale, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Seigneur Jésus, je te prie de bénir cette parole dans le cœur de chacun et de chacune, et que cela soit une consolation pour plusieurs. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Maintenant, je voudrais faire une autre lecture dans Colossiens 2, au verset 12. Enseveli avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés, vous êtes aussi ressuscités ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Alors, ces versets déclarent quand nous avons été baptisés, c'était l'image de notre ensevelissement dans le tombeau. Vous avez été plongé dans l'eau, vous avez disparu de la terre des vivants, en quelque sorte, c'est une image, pour ressusciter. C'est aussi l'image de votre résurrection. Mais tout ça, ça a été fait. Là, c'est juste la représentation de la chose. Nous avons été ensevelis avec lui, donc, par le baptême, nous sommes ressuscités en lui et avec lui, C'est par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et remarquez l'expression de l'apôtre Paul, par la foi en la puissance de Dieu. Nous sommes réellement tout ce que la Bible dit, c'est-à-dire mort avec lui à la croix, enseveli avec lui, ressuscité avec lui, assis avec lui sur son trône. Mais ça ne change absolument rien à votre vie si vous n'avez pas la foi que tout cela a déjà été fait. On va lire le verset 15. Le verset 15. Il a dépouillé les principautés, les autorités, les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Dans d'autres versions, c'est écrit « Il a cloué à la croix ». L'acte qui nous condamnait, au verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous, c'est-à-dire la loi, en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire, il l'a enlevé en le clouant à la croix. Ah, c'est quand même, c'est pas rien. Tout cela, c'est l'œuvre de notre Père. La loi était aussi l'œuvre de notre Père. C'est Dieu notre Père qui est aux cieux, qui a rendu à la vie le corps mort de Jésus, et en même temps, les élus que nous sommes, il a pardonné nos offenses, et c'est notre Père qui a effacé les dispositions de la loi qui nous condamnaient, parce que cette loi était absolument impossible à vivre. Il faut reconnaître, c'était impossible à vivre. C'est notre Père qui est aux cieux, qui a cloué à la croix de son Fils l'acte rédigé par lui-même et donné à Moïse, et les Juifs l'ont amplifié jusqu'à en faire 613 commandements, qui sont divisés par catégories, 248 commandements qu'ils appellent positifs, c'est fais ceci, fais cela, et 365 commandements négatifs, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et puis David est venu, et David, il a réduit ces 613 commandements en 11 commandements. On trouve ça dans le livre des psaumes, au chapitre 1 à 15, alors je vous lis. Qui demeurera sur la montagne sacrée? 1. Celui qui suit la voie de l'intégrité, qui pratique la justice, ça c'est le 1 et 2. 3. Et qui parle loyalement de tout cœur. 4. Il n'utilise pas sa langue pour calomnier. 5. Il ne fait pas de mal à son prochain. 6. Il n'outragera pas ses proches. 7. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux. 8. Mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. 9. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. 10. Il ne prête pas son argent à intérêt. 11. Il n'accepte pas de pot de vin aux dépens de l'innocent. Celui qui agit ainsi ne vacillera jamais. Et puis Esaïe est arrivé, et puis il a réduit ça à 6 commandements. Alors on trouve ça dans Esaïe 33, il faut que je le trouve, Esaïe 33, verset 15. Alors, qui c'est qui marchera avec, qui sera bien avec le Seigneur? C'est 1. Celui qui marchera avec justice. 2. Qui parlera avec droiture. 3. Qui rejette le gain de l'extorsion. 4. Qui secoue les mains pour ne pas recevoir de pot de vin. 5. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires. 6. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir ce qui est mauvais. Celui-là demeurera dans les hauteurs. Amen. Et puis, Michée est arrivé. Alors, Michée, lui, il l'a réduit à 3 commandements. On trouve ça dans Michée 6, 8. Voilà ce qu'il dit. 1. Qui c'est qui paiera, qui se réclamera du Seigneur, qui sera aimé du Seigneur, en gros. 1. Si ce n'est que tu agisses selon l'équité, c'est-à-dire il ne faut pas que tu sois inique, injuste, que tu aimes la fidélité, et 3. Que tu marches modestement avec ton Dieu. Et puis Esaïe revient. Et là, c'est dans Esaïe 56, 1. Et là, il réduit à 2 commandements. 56, 1. Voilà ce qui est dit. Ainsi parle le Seigneur. 1. Veillez à l'équité, c'est-à-dire détournez-vous de ce qui est injuste, hein, comme par exemple l'idolâtrie, se prosterner dans des images taillées, faire des faux témoins, enfin bon, tout ce qui est inique. Veillez à l'équité, agissez selon la justice. Esaïe dit, agissez selon la justice, car mon salut est près d'arriver, ma justice est sur le point de se dévoiler. Et puis le prophète Amos. Alors le prophète Amos, lui, il réduit tout ça, ces 613 commandements, à 1 commandement. Amos 5, 4, j'espère que ça vous intéresse. Car voici ce que dit le Seigneur de la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Voilà, chercher l'Éternel pour avoir la vie. Ah, puis encore Habakkouk qui font de tout ça sur un seul commandement. Habakkouk, c'est Habakkouk 2:4. Il dit le juste vivra par la foi. Voilà. Dans l'autre version, le juste vivra en tenant ferme. Quand Jésus est venu, il a résumé tout ça en 2 commandements. Alors, on va lire ça, il a résumé ça, et les gens lui posaient la question, c'est quoi le plus grand commandement? Matthieu 22, 37 à 40, voilà ce que Jésus dit. Il y en a un qui dit, maître, quel est le, le grand commandement de la loi. Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Jésus met au clair les choses. Alors Dieu a cloué à la croix tous ses commandements. Même si nous arrive de ne pas aimer notre prochain, ça peut arriver que des fois on est en rogne contre quelqu'un, eh bien nous pouvons être pardonnés. On vient devant Dieu, on se confesse à Dieu et il nous pardonne de tout péché, de toute iniquité. Ce commandement a été cloué à la croix aussi. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas été cloué. Qu'un seul commandement qui n'a pas été cloué à la croix. C'est celui dont Jésus dit c'est le plus grand, c'est le premier commandement. Alors on va lire dans Luc 12, 10. Luc 12. 10, voyons que je vous le trouve, c'est une vieille Bible, elle est un petit peu fragile. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire contre lui-même, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, il ne sera pas pardonner. Waouh! Alors, c'est quelque chose qui fait peur à plusieurs chrétiens. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit? Est-ce que ça m'est arrivé de blasphémer contre le... Et puis, qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit? Vous savez que le Saint-Esprit est là, nous sommes des témoins, mais le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Eh bien, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est résister à l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille dans le cœur d'un pécheur, et pour les amener à la repentance, si quelqu'un résiste, le Saint-Esprit continue, mais si le pécheur résiste tout le temps, et il attriste, il finit par attrister le Saint-Esprit, il ne veut pas céder à l'influence du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit finit par se retirer. L'Esprit de Dieu finit par se retirer, et le pécheur en arrive à ne plus avoir de remords pour rien, il s'en fout de tout, il refuse même le pardon de Dieu, il dit que c'est des foutaises. Il n'a aucune envie de revenir à Jésus, je dis bien revenir à Jésus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a connu les choses de Dieu et qui les a reniées. C'est pas quelqu'un d'ignorant. Hein, quand vous avez un fêtier païen qui vous dit « Ouais, non, moi Jésus, vous savez... » L'apôtre Paul était contre Jésus, il l'a même persécuté et tout, mais les chrétiens, mais voilà, parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance, nous dit la Bible. Mais quelqu'un qui a connu et qui renie, et puis qui veut pécher, qui veut faire ce qu'il veut, c'est autre chose. Là, il résiste au Saint-Esprit. C'est aussi une autre chose de blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est d'attribuer à Satan ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. Quand un homme de Dieu prie pour les malades, et que les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les boiteux ne boitent plus, les sourds entendent, et... Si quelqu'un se met à dire que c'est le diable qui a fait ça, il blasphème contre le Saint-Esprit. Il attribue au diable l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il se peut que vous ayez dit ça parce que vous étiez dans l'ignorance des choses du Saint-Esprit. Il y a des églises où on vous dit « le temps des miracles est terminé ». Alors quand les gens à qui on a dit « le temps des miracles est terminé, le temps des miracles est terminé, le temps des miracles », et puis qu'on leur a bourré le crâne avec ça, quand ils voient un miracle, ils disent « ah, ça vient du diable ». Là, ils disent ça parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte du temps, de l'ignorance. Donc si vous avez dit ça parce que vous étiez ignorant des choses de l'esprit, bon ben, Dieu le sait, il n'est pas bête, il n'est pas méchant, il n'est pas cruel. Si vous vous sentez coupable d'avoir dit de telles choses, c'est que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre de péché. Et il ne fait pas ça pour autre chose que pour que vous soyez pardonné, pour que vous soyez purifié de cela. Souvenez-vous que Dieu est miséricordieux et que s'il vous attriste à cause d'une chose mauvaise que vous auriez dite ou faite, ce n'est pas pour jouer à vous torturer. Si le Saint-Esprit vient et vous convainc de péché, ce n'est pas pour vous torturer. Dieu n'est pas comme ça. C'est pour vous amener à la repentance. Alors soyez en paix, ne pensez pas « Oh, j'ai peut-être blasphémé contre le Saint-Esprit, pour moi c'est fini. » Non, si tu es repris dans ton cœur, c'est que le Saint-Esprit te cherche encore et que tu peux être sauvé. Amen. Je me rappelle toujours, j'étais dans l'église d'un pasteur à Paris, le pasteur Henri Lindermann, il m'avait invité à prêcher. Et tout à coup, le Saint-Esprit me dit « Il y a là des gens qui croient qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. » Il faut que tu les aides. Alors je demande, est-ce que quelques personnes ici croient qu'elles ont blasphémé contre le Saint-Esprit? Et il y a 3 personnes qui ont levé la main. Et j'ai dit, poussé par le Saint-Esprit, pour vous prouver que vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit, ce soir, je vais prier pour 3 malades, les 3 premiers malades qui vont s'approcher, et ils vont être guéris. Et vous verrez par là que ce que je vous dis est la vérité, vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Et j'ai prié pour les 3 premiers malades qui sont avancés, et ils ont été guéris. Et après, je leur ai expliqué pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va aller faire dans les réunions? Il n'en a rien à faire d'aller dans les réunions, il n'en a rien à faire d'entendre la parole de Dieu, il est tourmenté par une fausse croyance. Soyez dans la paix, je vous en supplie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre ce que j'ai dit et que vous puissiez aller de l'avant dans la paix. Au nom de Jésus, c'est ma prière pour vous. Amen. Amen. Au revoir.